pain sur la table.
Un dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour la fête du Saint-Sacrement. Les apôtres reviennent de mission. Ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Les prenant avec lui, Jésus se retire à l'écart près de la ville appelée Bethsaïde. Mais les foules l'apprennent et elles le suivent. Il les accueille et leur parle du règne de Dieu. Et ceux qui ont besoin de guérison, il les rétablit. Comme le jour commence à décliner, les 12 s'approchent et lui disent
« Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages et les fermes d'alentour et qu'ils se logent et trouvent des vivres, car ici nous sommes dans un endroit désert. »
Mais il leur dit
« Donnez-leur vous-même à manger. »
Ils disent
« Il n'y a pour nous pas plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. »
Il y a bien 5 000 hommes environ. Il dit à ses disciples
« Faites-les s'installer par groupe de 50. »
Ils s'exécutent et les font s'installer tous. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel. Il prononce sur eux la bénédiction et il les rompt. Et il donne aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangent et tous sont rassasiés. On rassemble ce qui leur restait d'un morceau partagé, 12 paniers.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, voilà un récit qui a torturé bien des esprits forts. Croire au miracle de guérison n'est en effet pas facile pour ceux qui n'admettent pas le surnaturel, l'irrationnel. On accepte à la limite les miracles de guérison des corps, car on sait aujourd'hui toute l'influence du moral, du spirituel dans le processus de guérison physique. La médecine, qu'on appelle holistique, cherche en effet à traiter la personne comme un tout. Holos, en grec. Alors on veut bien croire que Jésus avait une grande puissance de conviction et qui pouvait provoquer cette guérison du moral et ensuite du physique, mais des miracles comme la multiplication des pains ne relèvent pas de la guérison spirituelle. Aussi bien des gens comprendront ce récit des pains multipliés uniquement dans un sens figuré. Eh bien, sans vouloir ici approfondir cette question complexe, donnons simplement la réflexion de saint Augustin sur ce thème, une réflexion que l'on trouve dans son commentaire de l'Évangile de Jean.
L'ordre du cosmos est un miracle plus grand que d'avoir rassasié 5 000 hommes avec 5 pains. Personne ne s'en étonne du premier, alors que le second nous plonge dans la stupéfaction. Pourquoi? Non pas parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il est plus rare. Qui pourvoit la subsistance du monde entier aujourd'hui comme hier, sinon celui qui fait mûrir des moissons entières à partir de quelques grains de blé? Jésus a donc agi comme Dieu le fait.
Eh bien, au-delà de cette question du geste miraculeux, il faut nous rappeler que tout événement de l'Évangile est une leçon de chose, un enseignement. Et il nous faudra donc chercher le sens de cet événement et ce qu'il peut bien signifier pour nous aujourd'hui. Citons d'abord ce récit dans les Évangiles. Fait assez rare, l'épisode des pains multipliés est rapporté par les 4 récits. Il se trouve même 2 fois chez Marc et 2 fois chez Matthieu. C'est dire l'importance que ce récit revêtait pour les premiers chrétiens. Il prend place à un tournant crucial de la vie de Jésus, un moment tragique de son ministère. Jusque-là, Jésus a connu de réels succès auprès des gens ordinaires des villages de Galilée. Mais la tâche est grande et le temps est compté. Aussi, à ce moment de sa mission, Jésus va transformer quelques-uns de ses disciples en envoyés.
Il convoque les 12. Il leur donne puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir des maladies. Il les envoie proclamer le règne de Dieu.
Luc nous dit que Jésus donne aux 12 Le titre d'apôtre, le mot grec apostoloi, signifie envoyé, et le mot latin correspondant est missi, qui a donné en français missionnaire. André Chouraki, un exégète juif, donne un commentaire intéressant dans sa traduction des évangiles.
On trouvait des envoyés dans tous les mouvements religieux et politiques en Israël. Ils étaient chargés de diffuser le message propre au groupement qu'ils représentaient et bien souvent de recueillir les dons qui les faisaient vivre.
Jésus a donc envoyé ses envoyés, ses missionnaires, dans les villages pour prêcher. Et eux aussi vont connaître un certain succès.
À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait.
Mais voyons quelle est la situation du peuple d'Israël à ce moment-là. Les foules sont désemparées par la situation politique du pays, le pays qui est occupé par les Romains depuis près de 100 ans. Comment comprendre en effet que ce peuple que Dieu a choisi, qui s'appelle le peuple de Dieu, semble abandonné par Dieu puisque des païens occupent le pays et le privent de sa liberté? Dieu a-t-il décidé d'abandonner son peuple à cause de son péché, et notamment en raison des injustices perpétrées par les riches sur le dos des pauvres? C'est ce que les prophètes ne cessent de redire. Les foules, elles, sont désespérées par la misère qui est accablante. Les impôts prélevés par les Romains sont lourds, les soldats d'occupation pillent, violent, les vexations sont incessantes. Les foules semblent prêtes à se rebeller contre les occupants. Elles espèrent en effet la venue d'un roi messie avec lequel elles feront la guerre sainte contre les Romains.
Jésus est-il ce Messie?
Eh bien, c'est ce que tout le monde se demande, et partout, dans les villages et les villes, on s'interroge sur Jésus. Qui est-il? Est-il le prophète Élie, revenu sur terre, que, selon certaines traditions, des groupes religieux attendaient? Est-il Jean le Baptiste, qu'Hérode a fait décapiter il y a quelque temps et qui serait revenu à la vie? Voilà le fond de scène sur lequel va se dérouler cet épisode du repas des pains multipliés. Les disciples sont donc allés dans les villages, porter le message, guérir. Les voici qui reviennent, qui font leur rapport à Jésus, sans doute tout remplis d'enthousiasme. Et Jésus voudrait bien prendre ses envoyés à part pour qu'ils se reposent. Mais les foules sont à sa poursuite et Jésus est ému de miséricorde parce que ces gens sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est pourquoi il les rassemble et se met à les enseigner. Il leur parle du règne de Dieu, il leur enseigne beaucoup de choses, longuement, si longuement, que voici que la nuit se met à tomber.
Quel est le sens de ce repas?
Les gestes de Jésus, qui sont rapportés par l'Évangile, ont toujours une dimension spirituelle qu'il nous faut bien comprendre. Ce repas doit être lié à ce qui vient de se dérouler, c'est-à-dire aux longues heures que Jésus vient de passer à enseigner, à partager la parole de Dieu. Dans la Bible, le pain représente la parole de Dieu.
L'être humain ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le pain est donc le symbole d'une parole qui fait vivre parce qu'elle est nourrissante pour l'esprit. Et depuis le matin, Jésus parle du règne de Dieu, c'est-à-dire de ce monde tel que Dieu le voit, tel que Dieu le veut. Il parle à une foule qui a faim et soif d'espérance. À ces gens qui sont opprimés, Jésus vient parler de liberté.
L'Esprit de Dieu est sur moi pour proclamer liberté aux captifs, renvoyer les opprimés vers la libération.
Un peuple qui est divisé entre une minorité qui est trop riche et une minorité, bien sûr, qui collabore avec les troupes d'occupation, divisé entre cette minorité riche et une majorité trop pauvre parce qu'elle ploie sous les impôts à verser à l'occupant, eh bien, à ces pauvres, Jésus parle de justice. Vous serez heureux, vous les appauvris, malheur à vous, les enrichis. À ces foules de gens ordinaires qui sont méprisées par les élites religieuses, méprisées parce qu'elles sont illettrées, qu'elles méconnaissent la règle de Dieu, la Torah, à ces gens, plus ou moins exclus de la synagogue, Jésus parle d'un Dieu qui les aime.
Je te bénis, Père, car tu as caché ton mystère aux savants, et tu te révèles, tu te fais connaître aux humbles et aux petits.
À des gens qui sont écrasés sous les multiples règlements de la tradition, les fameux 613 articles de la Torah, à ces gens pour qui Dieu peut apparaître comme un maître d'obligations et d'interdictions, Jésus se présente comme le guide des opprimés.
Venez à moi, vous qui ployez sous le joug et le fardeau. Mettez-vous à mon école, et moi je vous donnerai le repos.
Liberté, dignité, fraternité, amour d'un Dieu qui est miséricorde, voilà l'enseignement de Jésus. Les foules de ce jour-là mangent, boivent ces paroles qui leur apportent l'espoir. Jésus est sans nul doute ce Messie que tous attendent et qui apporte l'espérance, et Jésus va prolonger cet enseignement par un repas communautaire. Notre monde actuel a perdu beaucoup le sens du repas. Le repas est devenu le plus souvent simplement un temps pour nourrir son corps. On mange souvent seul devant une télévision. On mange chacun son plat avec son cabaret dans une cafétéria où chacun se sert soi-même sans parler à personne. Or, le repas partagé est un geste qui a une dimension humaine et communautaire d'une grande puissance symbolique. Le repas rassemble, nourrit d'un même pain, d'une même nourriture, pour unir ou réunir. De ceux qui mangent à la même table, les commensaux, le repas va faire des compagnons au sens propre de ce mot qui signifie ceux qui partagent le pain, cum, en latin, avec, et panis, pain. Dans certains peuples orientaux, encore aujourd'hui, on ne mange pas avec des gens qu'on ne connaît pas. Ce serait une sorte de sacrilège que de manger le pain d'un étranger. Il y a donc un lien nécessaire entre manger ensemble et communier, partager la parole. Partager le pain avec quelqu'un, c'est signifier, rendre signifiante notre solidarité, notre communion, notre fraternité. Dans un très beau petit livre intitulé « Nous avons partagé le pain et le sel », Serge de Bourcueil raconte.
À Kaboul, un jeune Afghan musulman qui était mon élève vient un jour me proposer. « Je voudrais que tu viennes chez moi, puis je viendrai aussi chez toi. Nous partagerions le pain et le sel et nous serions amis pour toujours. »
Partager le pain et le sel, c'est le signe d'une amitié sacrée. Le repas est comme le signe sacré de la communion de ceux qui rompent le pain ensemble. Une communion qui s'établit non pas d'abord sur des sentiments psychologiques, des amitiés, mais sur union, une union qui se fonde sur une connaissance mutuelle profonde, sur une volonté de s'aimer l'un l'autre de bonté. Remarquons-le bien, dans ce repas des pains multipliés, c'est Jésus lui-même qui donne le pain, car c'est lui, c'est sa parole qui vient de nourrir les participants. Auparavant, il a multiplié pour eux la parole d'espérance qui vient de Dieu. Le partage du pain va donc signifier concrètement cette communion dans sa parole, dans sa pensée. Et cette communion avec Jésus est communion en Dieu. Tous sont nourris d'une même pensée qui est celle de Dieu Père. Ils sont habités par un même esprit qui est celui de Dieu et qui est communiqué par ce Fils parfait du Père qu'est Jésus, celui qui est lui-même empli de l'esprit. Cette pensée, cet esprit, va engendrer tous ces gens pour en faire des fils et des filles de Dieu, et tous deviendront frères et sœurs parce que fils et filles de Dieu. Le repas est la célébration de cette communion. Voilà ce que ce geste des pains signifie et ce qu'il veut produire dans les cœurs. Une telle table évoque le banquet du Messie. En effet, ce qu'on attendait du Messie, c'était qu'il rassemble, qu'il réunifie le peuple de Dieu. Et quelle meilleure image y a-t-il pour signifier ce rassemblement que celle d'un banquet de fête?
Pourquoi ce regroupement par cinquantaine?
Eh bien, la disposition de la foule par groupe de 50 veut aussi faire allusion à ce banquet messianique. En effet, cette disposition décrit la façon dont Moïse avait autrefois rassemblé et organisé les tribus dans le désert lors de la sortie d'Égypte. Écoutons au chapitre 18 de l'Exode.
Dans tout Israël, Moïse choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple. Chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines.
Cela avait suivi la célébration de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce festin des pains multipliés va donc susciter une grande espérance dans les foules, l'espérance d'un renouvellement de l'alliance. Dieu va s'engager à libérer à nouveau son peuple, comme il l'a fait du temps de Moïse. L'évangile de Jean dira que les foules veulent enlever Jésus pour le faire roi. Elles veulent en effet que Jésus prenne la tête du soulèvement populaire et de la guerre sainte. Mais lui va couper court à cet enthousiasme, qui ne va pas dans le sens qu'il donne à sa mission. Il ne sera pas le messie politique, il ne fera pas la guerre sainte. Ses moyens de puissance pour changer le monde ne sont pas les siens. Pour Jésus, c'est à l'intérieur de chacun que se prépare et se joue le vrai changement. Les vrais moyens de rendre liberté, dignité, fraternité sont des moyens de Dieu, des moyens d'amour. C'est en Dieu qu'il faut puiser la force de la fraternité. Une fraternité qui s'exprime dans une solidarité qui n'exclut personne et qui passe toujours nécessairement par le pardon. Moïse avait apporté la Torah de Dieu, l'enseignement qui disait comment vivre pour devenir fils et fille de Dieu. Mais la Torah toute seule, ça ne suffit pas. Elle dit comment vivre, mais elle ne donne pas la force pour vivre. Pour vivre la Torah, il faut avoir l'Esprit de Dieu, son souffle spirituel de sainteté. Les prophètes d'Israël appelaient depuis longtemps la venue de l'Esprit. Évoquons Ézéchiel au chapitre 36.
Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes préceptes, garder et pratiquer mes coutumes.
La mission de Jésus est à ce niveau, rassasier l'humain d'une faim profonde, fondamentale, qui est la faim de Dieu. En venant habiter chaque être humain, Jésus est celui qui apporte l'amour, le vrai amour. Avec lui, on peut aimer à la manière de Dieu. Manger le pain avec Jésus, cela engage à ne plus faire qu'un avec lui. Dans la Genèse, quand l'homme et la femme s'unissent, on dit qu'ils deviennent une seule chair, un seul être. Avec Jésus, manger son pain, c'est comme devenir une seule chair avec lui. En assimilant ses paroles, on s'unit à lui.
Celui qui me mange demeure en moi et moi en lui. Celui qui me mangera vivra par moi.
Mais ce langage de Jésus sera trop dur et les foules vont l'abandonner. Un bon nombre de ses disciples vont cesser de le suivre. C'est le moment où Jésus va poser aux 12 la question de confiance. Et vous, allez-vous partir? Et il obtiendra cette réponse de Pierre.
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons que tu es le Saint de Dieu, le Messie.
Dès lors, les 12, le petit noyau des disciples les plus engagés, vont être associés par Jésus au partage de cette parole de vie éternelle. C'est le sens du fait qu'il les associe au partage du pain.
Donnez-leur vous-même à manger. Il leur donne le pain pour l'offrir à la foule.
Les apôtres ont déjà accompli leur première mission. Après Pâques, ils seront envoyés dans tous les peuples pour faire connaître le message d'espérance de Jésus et en témoigner par toute leur vie.
Pour nous aujourd'hui, que signifie ce grand geste du repas messianique?
Les foules d'aujourd'hui ont bien sûr toujours besoin de pain. il y a encore à travers le monde des millions d'êtres affamés. Malgré un enrichissement collectif, la pauvreté n'a cessé de progresser, ici même au Canada, dans les 15 dernières années. Une pauvreté qui est et qui sera toujours intolérable, indigne de l'être humain, indigne de fils et de filles de Dieu. La tâche de chaque chrétien est de travailler à sa place et selon ses possibilités, à ce que ce monde devienne moins injuste, à ce qu'il y ait moins d'inégalités. Mais ce monde a aussi besoin d'un pain d'espérance. Du pain, mais aussi des roses, comme le disait si bien cette marche des femmes du Québec en 1995. Cette marche des femmes, comme beaucoup l'ont bien souligné, vaudra sans doute plus par la solidarité qu'elle a suscitée ou ranimée que par les gains économiques, même relativement importants, qu'elle a faits. Solidarité, mais qui ne doit pas être seulement entre femmes, car une solidarité qui est celle d'un seul clan contre un autre est une solidarité qui ne peut pas durer, elle sera toujours fragile, elle sera prête à se détruire elle-même lorsque il y aura moins d'intérêts communs à sauver au niveau du clan. La solidarité, si elle veut survivre et prospérer, doit se faire avec tous, sans exception, et notamment avec ceux qui sont les plus démunis. Ces femmes du Québec marchaient pour tous ceux qui souffrent et manquent d'espérance, pour les familles appauvries, pour les immigrants, pour les enfants, pour les jeunes sans travail. Cette solidarité, d'ailleurs, est souvent plus forte chez les pauvres qui n'ont plus rien à perdre que chez les enrichis qui, inconsciemment, veulent protéger leur avoir. Je garde en mémoire ce fait survenu dans un village du nord-est brésilien, une région très pauvre. La famille était devenue extrême par une sécheresse qui durait depuis des mois et des mois. Et dans ce village, deux enfants venaient de mourir. À la messe du dimanche, voici que l'évangile qui est proclamé dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ». Alors au moment de l'homélie, le prêtre est muet. Et c'est alors qu'un paysan lève la main et qu'il dit
« Heureusement que nous sommes chrétiens et que nous croyons à cet évangile. Car autrement, nous ne serions pas ici, mais en train de nous déchirer et de nous diviser pour accaparer le peu des vivres qui nous restent. Nous avons décidé de rester unis et de tout partager. »
Nous avons décidé de rester unis et de tout partager. Apprendre à partager son pain. C'est aussi apprendre à partager des paroles qui font vivre, qui donnent sens à la vie. Ce qui fait le désespoir le plus noir, ce qui fait la souffrance plus intolérable, ce n'est pas seulement le manque de pain, mais le manque de sens à la vie. Écoutons Maurice Zendel.
Une femme pauvre m'a dit ces mots que j'ai retenus. La plus grande douleur des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié. On vient chez nous, on s'assoit sur le coin d'une chaise, on dépose de quoi poursuivre notre misère quelques jours, et puis on s'en va tranquillement. Mais personne ne croit que nous, les pauvres, nous avons quelque chose à donner. Nous sommes simplement un organisme qui bouffe, et voilà. Si on nous donne à manger, on est quitte. Personne n'imagine que nous aussi, nous éprouvons le besoin de donner. Personne ne croit à notre dignité, et cela est notre plus grande blessure. Cette femme considérait que la plus grande épreuve de sa vie, c'était ce mépris de sa dignité, ce mépris de ceux qui la secouraient et qui ne croyaient pas qu'elle était capable d'une amitié généreuse et gratuite. Elle réclamait donc ce pouvoir de donner, ce pouvoir de créer, elle aussi, une joie, un bonheur.
Mépris de sa dignité parce qu'on ne croit pas qu'elle est capable, elle aussi, d'une amitié généreuse et gratuite. Faim et soif de pain. Faim et soif de dignité. Mais ne faut-il pas aller plus loin encore? Écoutons ce jeune étudiant, Jérôme, qui écrit cette réflexion à propos de la solitude.
Toutes les relations humaines aboutissent tôt ou tard à une espèce de saturation, au-delà de laquelle on reste immanquablement seul. Tôt, dans le cas des rencontres fast-food du bureau, tard, dans le cas des relations travaillées disponibles patientes. Que faire dans ces conditions? S'attaquer, entre autres, à la poignante impression de solitude et de désœuvrement qui se cache derrière le quotidien effréné. Opposer la proximité aux rencontres virtuelles, le long terme au jetable, l'authenticité aux mille masques urbains. Changer les mentalités utilitaristes en objectifs plus humains, plus sensés. En un mot, viser l'intérieur, le sien et celui des autres. On y fait des découvertes très intéressantes et dont le trip dure plus longtemps qu'une cybermode.
Le cardinal Suard, archevêque de Paris, dans les années de la guerre, s'exprimait ainsi dans une lettre pastorale.
L'humain ne se rassasie pas seulement de pain, ni de bien-être, ni de dévouement, ni de tendresse. De quelque nom qu'il le désigne, il est affamé de Dieu.
Il est affamé de Dieu. Si Dieu est la vie de toute vie, l'amour de tout amour, si nous l'effaçons de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, est-ce que nous ne tuons pas l'espérance et la vie ? Ennui, désespoir, alcoolisme, drogue, violence, suicide, un lot de misère tellement grand dans notre monde. Et si cela n'était que symptôme d'un mal plus profond, le mal de l'absence de Dieu. Absence de Dieu dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans toute notre vie publique. Chrétiens, ne sommes-nous pas responsables de ce manque d'un pain d'espérance qui fait vivre ? Parce que nous ne sommes pas assez solidaires, car là où se vit le partage, tous mangent et tous à leur faim. On rassemble ce qui reste des pains partagés, 12 paniers.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. RelaisMontroyal.com. Vous pouvez également vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs 514-256-4110.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.